My gang will get you.
Les enfants du Nouveau Monde, une émission de Céline Elodie. Même si on nous en parle si peu, le monde est rempli de belles choses. Des humains en marche, des initiatives pleines de bon sens et d'humanité. Nous sommes tous une étincelle de cette transformation. Avec les enfants du Nouveau Monde, partons à la rencontre des terriens d'ici et des humains de là-bas, des enfants de la Terre qui aiment notre planète, qui croient en leurs rêves et qui créent un monde meilleur dans leurs actions quotidiennes. Aimer l'humain, humer l'humus, et militer avec humilité. Bienvenue sur Terre, enfants du Nouveau Monde.
Hey man, you want girls? I show you good time. This place has everything. Come on, I show you.
Bonjour à tous les auditeurs et auditrices des enfants du Nouveau Monde. Ravi de vous retrouver en ce mois de novembre. Alors, ce mois-ci, j'ai décidé d'accueillir deux femmes formidables qui travaillent bien dans le monde de l'agriculture et pas que. Elles aident en fait les viticulteurs de la région de Sud-Anduze, les Dignan, Cardé, les Ans, tout ça, à adopter des pratiques plus respectueuses afin de préserver l'environnement et la qualité de l'eau dans ce secteur. Il m'a semblé que c'était très intéressant de leur donner la parole pour nous donner des idées à tous dans les différentes communes environnantes afin de copier un petit peu ce qu'elles mettent en place. Donc, je les ai rencontrées en faisant les vendanges ce mois de septembre, bien sûr, chez un viticulteur bio. Et donc, je vous présente Marie-Dominique Gras, bonjour.
Bonjour.
Et Nadia Van Anja.
Oui, bonjour.
Salut. Alors, donc je suis très heureuse de vous accueillir et on va faire le tour de tout ce que vous mettez en place et il y en a beaucoup des actions que vous mettez en place. D'abord, expliquez donc dans quel cadre vous travaillez. Donc Marie-Dominique Gras, toi tu as un emploi mutualisé sur 3 communes.
Oui, c'est ça. Je travaille pour les communes de Lédignan, de Cardé et de Lézan qui se sont regroupées déjà vers 2011 à peu près pour mettre en place ce poste d'animateur sur un programme d'action pour reconquérir la qualité de l'eau des captages. Parce que chaque commune s'alimente en eau par un captage qui lui est propre. Ils sont en fait assez proches l'un de l'autre. Ils sont dans la nappe du Gardon d'Anduze, donc près de la rivière du Gardon. Et donc chaque commune a sa propre alimentation en eau potable et il se trouve qu'ils ont pratiquement la même problématique au niveau des pesticides. Donc du coup, logiquement, ils se sont regroupés pour mettre en place ce poste d'animateur.
D'accord. Alors donc, à l'origine de la création de ton poste, il y a quand même eu un constat qui était assez triste dans la région. Les nappes phréatiques polluées par les pesticides et en gros, comment on fait? Il faut mettre en place des actions, etc. Et d'où la création de ton poste, c'est
voilà,
ça?
Voilà, c'est ça. En fait, les captages ont été classés prioritaires. Ils ont été classés prioritaires carrément par la préfecture. C'est quelque chose établi. Donc il y a un diagnostic général sur la région qui a été réalisé.
Et c'est classé prioritaire parce que c'est pollué. On est d'accord.
Et c'est classé prioritaire, donc ils se sont aperçus que dans cette zone-là, entre autres, il n'y a pas que cela dans le Gard, hein, dans le Gard à peu près entre 20 et 26 captages qui sont classés prioritaires sur à peu près 500, donc c'est quand même pas énorme. Ils se sont aperçus qu'il y avait des problèmes de qualité de l'eau par rapport aux pesticides et que c'était pas facile de trouver notre ressource en eau pour alimenter la population locale. Donc voilà, un classé prioritaire, c'est parce qu'il y avait un problème de qualité et qu'en plus, on pouvait pas, comme ça, en claquant des doigts, trouver une ressource de substitution. Mmh. Donc il fallait bien continuer à utiliser l'eau et donc pour ça, trouver des actions pour arriver à améliorer la qualité de l'eau sans avoir à la traiter. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, l'agence de l'eau notamment a fait pas mal d'études là-dessus, qu'il était plus rentable, entre guillemets, d'agir en amont plutôt qu'en aval. Une fois que l'eau est polluée, d'essayer de la dépolluer, ça coûte beaucoup plus cher.
En fait. Et voir, c'est impossible pour certaines molécules.
Et parfois, c'est impossible,
c'est tout complètement à fait. Impossible. Il faut savoir que les pesticides, c'est une pollution qui dure extrêmement longtemps dans le temps et qui a un effet sur la santé, même à très très petite dose, à dose très infime, notamment pour les femmes enceintes, les fœtus qui sont en contact parce que la mère a bu de l'eau qui était polluée, ça crée des malformations irréversibles. Je sais de quoi je parle puisque j'ai donné naissance à un enfant qui m'a malheureusement a eu une malformation liée aux perturbateurs endocriniens, on appelle ça comme ça, hein, qui sont dans les pesticides et qui se font passer pour des hormones et du coup qui perturbent tout le système hormonal des enfants. Chez les petits garçons, ça crée des malformations génitales, et chez les petites filles, des pubertés précoces. Voilà, donc c'est quand même bon à savoir, la pollution par les pesticides, c'est pas rien. Ça a vraiment de graves conséquences sur la santé humaine. On passe à la présentation de Nadia. Bonjour Nadia.
Bonjour.
Alors Nadia, toi tu es animatrice agro-environnementale pour l'association Grappe 3.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que c'est que cette association Grappe 3 et comment elle a été créée ?
Alors, cette association, elle a été créée en 2011 à l'initiative des deux caves coopératives de Tornac et de Massière-Gatuèche. Donc c'est une association qui, au départ, avait pour objectif d'accompagner le mouvement en conversion biologique des viticulteurs, donc qui souhaitaient devenir bio.
D'accord. Donc il y a eu quand même un gros mouvement par chez vous, là, dans le coin de Lézan, Lédignan, Massière-Gatuèche et tout ça, un gros mouvement de viticulteurs qui ont eu envie de se convertir en bio. C'est venu d'eux-mêmes ou comment c'est arrivé ce mouvement-là ?
Alors oui, il y a une réelle prise de conscience. Alors il faut savoir qu'il y avait une partie des viticulteurs qui sont déjà bio depuis 2002, notamment à Tornac. Et puis, au fil des années, une prise de conscience collective donc chez les coopérateurs de ces deux caves qui a fait qu'ils ont eu envie de se convertir, notamment sur les aspects santé et environnement.
Et donc, toi, ton travail, Nadia, c'est de les accompagner là-dedans ?
Alors oui, le mouvement de conversion aujourd'hui est terminé, hein, donc on a des viticulteurs qui sont aujourd'hui donc en bio, et on n'aura pas forcément d'autres personnes qui vont se convertir. Donc mon travail d'aujourd'hui, c'est de les accompagner pour une amélioration continue de leurs pratiques culturelles en faveur de l'environnement.
D'accord. Alors on va voir tout ce que vous mettez en place, l'une et l'autre, et l'une avec l'autre, puisque vous avez des projets à la fois séparément et aussi des projets que vous menez ensemble, et il y a beaucoup, beaucoup de choses. Alors peut-être parler déjà de l'aspect zéro pesticide dans les communes. Ça c'est plutôt Marie-Dominique dans ton emploi mutualisé sur ces trois communes qui travaille là-dessus. Comment ça se passe Est-ce que les communes étaient motivées ou est-ce qu'il a fallu les motiver ?
Alors c'est bon, le zéro phyto, c'est vraiment des pratiques qui sont mises en place par les agents communaux et qui sont demandées ou encouragées par les élus et par la population. Donc on ne peut pas dire que personne n'était demandeur, enfin ça dépend, c'est des affaires de personnes forcément, puis d'organisation de travail. Donc je ne peux pas avoir une réponse comme ça qui est générale. Donc en fait, on a travaillé dès 2011, dès la mise en place de l'animatrice sur le zéro phyto dans les communes.
Donc zéro phyto, ça veut dire zéro produits phytosanitaires, c'est-à-dire que les communes s'engagent à ne pas utiliser de désherbants chimiques, de pesticides.
Voilà, de produits phytosanitaires, donc d'herbicides, de produits pour limiter les pucerons, par exemple, sur les lauriers, des choses comme ça. Et là, on parle vraiment d'espaces entretenus par les agents communaux.
Donc, voilà. On a mis en place les bordures, voilà. Et tout ça.
Les cimetières, les stades.
C'est très important parce que dans la culture, les gens aiment bien que les cimetières soient tout nickel, qu'il n'y ait pas d'herbe qui pousse entre les graviers. Voilà. Et donc, du coup, ça demande de revoir la vision de qu'est-ce qui est propre. Parce que quand on dit, oui, c'est pas propre, il y a de l'herbe qui pousse, mais l'herbe, elle est propre, madame. Oui. C'est plutôt vos produits phytosanitaires qui ne le sont pas et qui polluent nos nappes phréatiques.
Et qui ne se voient pas. Alors, voilà. C'est vrai que c'est difficile. Il faut se mettre aussi à la place des gens. C'est aussi ça l'intérêt d'être animateur, c'est de réfléchir pourquoi les gens réagissent comme ça. Ouais. Donc on a fait des communications en disant attention, c'est pas l'herbe qui est sale, voilà. Sauf que effectivement, quand on a juste un petit brin d'herbe, le vent a tendance à porter le papier qui va rester coincé dedans. Donc voilà. D'accord. Donc il faut essayer de comprendre les choses. Et puis quand on est dans un cimetière, par exemple, c'est sûr que quand on est tout en gravier et qu'on a une petite herbe ou deux, trois herbes qui poussent au milieu, qui parfois sont franchement pas belles, il faut avouer que c'est pas toujours joli. Donc au lieu de dire ah non, l'herbe, il faut la laisser, eh bien il faut en mettre plus en fait. Il faut prendre l'inverse.
Oui.
Il
ne
faut pas essayer de garder ce qui est aujourd'hui. Il faut vraiment le transformer pour que ce soit toujours agréable.
C'est ça, transformer donc des allées de gravier en allées d'herbe tondue, par exemple.
Par exemple, au début, on avait mis au cimetière de Cardet toute une zone qui est en attente de concession, on l'avait mis en prairie fleurie. Donc ça, c'est quelque chose qui est très joli, qui se fait de plus en plus dans pas mal de cimetières.
Du coup, il y a de la fleur, il y a des fleurs tout le temps dans le cimetière.
Il y a de la verdure et ça fait moins de travail aussi pour les agents. Donc, au bout du compte, tout le monde est content. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que pour un agent communal, c'est énormément de travail de plus mettre de phyto, surtout des herbicides. Avant, pour la commune de Lédignan, par exemple, en deux jours, une journée, deux fois par an, ils mettaient les pesticides, on va dire, partout. Hein, d'il y a un moment déjà. Et ils avaient fini leur travail. Tandis que là, maintenant, il faut qu'ils se mettent à 5, au moins une semaine tous les 15 jours, j'exagère un peu mais pas loin, pour arriver à avoir le même travail qu'avant. Donc du coup, on peut plus faire la même chose qu'avant. Il faut qu'on... Du coup...
On peut plus avoir des agents communaux qui se tournent les pouces, quoi.
Non, mais il n'y a pas d'agents communaux qui se tournent les pouces à les dîner en quart les ans, d'abord.
Bah, du coup, oui.
Mais même avant. Non, mais ce sont des agents qui sont polyvalents. Donc, par exemple, à Lédignan, à Cardé, ils ont la gestion de l'eau. Donc, dès qu'il y a une casse, dès qu'il y a un petit problème, tous les relevés de compteurs, c'est qu'ils le font. Ils gèrent aussi la station d'épuration. Tous les bâtiments communaux sont entretenus. Ils font de tout, quoi. Le tractopelle, le désherbage.
Donc, c'est très intéressant, effectivement, de voir que pour atteindre le zéro pesticide dans les communes, il faut vraiment repenser aussi les espaces verts, repenser les espaces publics tels cimetières, etc. Comment on les organise afin de pouvoir réduire les produits phytosanitaires, et ça demande donc de revoir peut-être les choses, la façon dont on concevait ces espaces jusque-là. Il y a aussi un gros travail que vous faites auprès du grand public, des scolaires, avec pas que des scolaires, hein, mais du grand public aussi, organisation de conférences, projection de films pour sensibiliser les gens à diverses problématiques liées à l'environnement, à la protection de l'eau, etc. Qui est-ce que vous avez accueilli comme conférencier récemment?
Alors, récemment, ça fait quand même depuis 2014, on a fait venir monsieur Francis Allais, qui est un botaniste très connu qui vient de Montpellier et qui a parlé vraiment plus de l'arbre avec un grand A, l'arbre et sa place en ville. Donc il y a eu quand même pas mal de personnes. On avait fait ça, c'était sympa, sur la place de la mairie en extérieur, sous les platanes. Donc c'était assez sympa. Et on avait projeté aussi son film, hein, La forêt. Et puis, on peut demander à tout un tas de personnes de venir parler, donc des gens intéressants. On peut parler de l'abeille, par exemple, demander à une association, à des conférenciers de venir. On peut parler, pourquoi pas, faire venir. Enfin, il n'y a pas de liste fixée unique.
Oui, oui. Et en termes de films, donc vous organisez régulièrement des projections de films sur ces trois communes.
Oui, par exemple, récemment, on a passé Bye Bye Pesticide de Monsieur Fréquel. Et je pense qu'on va le repasser dans pas trop longtemps et faire venir carrément le réalisateur du film, qui est quelqu'un aussi d'intéressant, qui interagit bien avec le public.
Super. Donc vous êtes aussi le relais, enfin tu es le relais du coup auprès des agriculteurs au niveau technique pour réduire les pesticides, parce qu'il n'y a pas que les communes, il y a aussi tous les privés et notamment les agriculteurs, hein, puisque le problème vient beaucoup de la pratique viticole. Il y a énormément de produits phytosanitaires qui sont déversés dans les vignes. Je crois que ça rivalise avec les pommes. Je crois que c'est les deux pires cultures, hein, entre les pommes et la vigne sur le déversement de pesticides dans les terres. Du coup, qu'est-ce que tu apportes à ce niveau-là?
Alors oui, ce qui est important, le programme d'action, c'est un programme d'action qui est global. Mm-hmm. On ne dit pas ce sont les agriculteurs qui sont les plus pollueurs. C'est vraiment, on agit à tous les niveaux, auprès de tous les utilisateurs. Aussi infimes peuvent-ils paraître. Par exemple, dans l'eau de Cardé, on a vu l'année dernière des molécules qui étaient utilisées dans des jardins particuliers. Voilà. Mm-hmm. Donc c'est pas que l'agriculture, qu'on a l'habitude de le dire, qui peut polluer. On a des chiffres de l'Agence de l'eau qui indiquent, par exemple, que 90% des pesticides peuvent être achetés par les agriculteurs. Mais quand on regarde la pollution de l'eau, c'est pas 90% de la pollution qui peut venir des agriculteurs. C'est un petit peu moins. Donc il y a quand même la partie non agricole qui entre en compte. Donc c'est un programme global. Et effectivement, bien sûr, on aide les agriculteurs fortement à essayer de réduire les pesticides qu'ils peuvent mettre dans leur vigne, puisque chez nous, on n'a pratiquement que des viticulteurs. On a un peu plus de céréales maintenant, mais c'est beaucoup de la vigne. Et donc, on travaille avec eux pour savoir quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes, et essayer ensuite d'aller voir auprès d'associations telles que CRAP3, ou auprès de la Chambre d'agriculture, auprès de gens compétents, pour leur apporter les solutions techniques à leur question.
Oui, je reviens sur ce que tu disais, c'est très intéressant. Effectivement, je crois que quand on analyse les molécules qui sont polluantes au niveau des nappes phréatiques, etc., on retrouve en grosse partie des molécules qui sont utilisées pour des produits de particuliers, pour désherber son jardin, et que ce n'est pas les mêmes produits qu'utilisent les agriculteurs. Et en fait, on se rend compte que le problème au niveau des particuliers, c'est qu'ils font du surdosage.
Exactement.
Vu qu'ils ont des petites parcelles, un petit bordure de fleurs, etc., ils ne savent pas très bien comment doser, et puis en même temps, un bidon, ça coûte pas si cher, et puis j'en passe seulement un dans l'année. Mmh. Oui, mais ce surdosage-là, il a des conséquences sur l'environnement, alors que les agriculteurs, effectivement, eux, ils en passent peut-être beaucoup plus des quantités, mais ils visent aussi à ne pas trop dépenser avec
parce
tout
que là,
ça,
coup,
ça leur
ça
coûte
fait,
cher
oui.
aussi, donc ils font pas réellement de surdosage, quoi. Mmh. Voilà. Donc attention à tout le monde, attention au niveau agricole et attention aussi au niveau des
et
particuliers.
Et puis, Monsieur Rabhi le dit bien, chaque goutte... compte.
Chaque goutte
le
compte.
Le petit colibri, il avait son petite quantité, mais il a fait aussi son travail, quoi.
Mmh. Ah oui, je sais de quoi tu parles, parce que je viens de créer une autre émission qui s'appelle Le Chant des Colibris. Du coup, on parle beaucoup de ce qu'on fait, de ce que font tous ces petits colibris avec des gouttes d'eau dans leur bec, hein, pas des gouttes de Roundup, attention.
Il y avait un grand incendie, du feu, des flammes, du vent, des cris. Tous les amis des colibris regardaient le feu sans rien dire, n'avaient qu'une idée, s'enfuir. Il restait juste un colibri jetant des gouttes sur l'incendie. Nous sommes tous des graines de colibris. Dans ma tête il y a du cœur, faire un paradis. Envoyons un petit colibri. Vouloir éteindre un incendie, ça donne quand même envie de rire. Mais dans la poitrine des colibris, y'a ce gros cœur comme un ovni. Ce clic, ce claque, ce paf, ce chi. Derrière le premier colibri, d'autres se sont mis à venir. Nous sommes tous des graines de colibri. En ma tête il y a du cœur, en mon cœur il y a l'envie. De quoi faire un monde meilleur, de quoi faire un paradis. Dans ma tête il y a du cœur, dans mon cœur il y a l'envie. De quoi faire un monde meilleur, de quoi faire un paradis. En voyant tous ces colibris, les animaux, tous leurs amis se sont rués comme un sali. Ça y est, l'histoire s'arrête ici, sans dire la fin de l'incendie. L'important c'est les colibris et leur courage et leur génie. Au paradis des colibris, il y aura des ogres et des gentils, des grands, des gros, des minces, des petits. Au paradis des colibris, au paradis. Dans ma tête il y a du cœur, dans mon cœur il y a l'envie. Il y a du cœur, en mon cœur il y a la vie. De quoi faire un monde meilleur, de quoi faire un paradis.
Vous êtes à l'écoute des Enfants du Nouveau Monde sur Radio 16 et c'était Zaz avec la légende des colibris, un petit clin d'œil à la nouvelle émission que nous venons de créer qui s'appelle Le Chant des Colibris et qui chaque mois vous parlera donc de diverses thématiques en rapport avec le respect de l'environnement et d'une planète plus respectueuse de l'humain et de la nature. Aujourd'hui dans Les Enfants du Nouveau Monde qui traite aussi un peu des mêmes sujets, vous aurez compris, c'est mon dada. J'accueille Marie-Dominique Gras et Nadia Van Anja qui sont deux femmes engagées pour la diminution des pesticides à la fois dans le monde agricole mais également dans les communes et au niveau du grand public. Nous avons fait le tour d'une grosse partie de leurs actions menées du côté du sud d'Anduze avec l'association Grappe 3 et on continue car ce n'est pas fini. Donc on a vu une grosse partie des actions menées. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a quelque chose de très intéressant, c'est la création d'aires de lavage pour les pulvérisateurs agricoles. Parce qu'effectivement, donc, les pulvérisateurs agricoles, ils dispersent leurs produits. Et après, comment on fait pour le laver quand
pour
on...
le laver, tout à voilà. fait. Ça peut être une gêne qui est occasionnée au voisinage. Et puis ça peut être aussi des zones qu'on va polluer de temps en temps parce qu'on va surpolluer. Donc du coup, les agriculteurs aussi nous l'ont demandé. Les caves, on travaille avec elles, les caves viticoles du secteur, pour créer donc deux aires de lavage. On a bien étudié pour savoir combien de personnes seraient intéressées, où c'est qu'il fallait les mettre, et donc on s'est rendu compte qu'il valait mieux en mettre deux sur toutes les zones qui sont quand même assez importantes. Et donc c'est des zones qui sont des aires de lavage comme on pourrait voir l'éléphant bleu. Donc les agriculteurs vont venir avec leur pulvérisateur, ils vont pouvoir le laver intérieur-extérieur, et les eaux qui sont donc souillées vont partir dans une zone de traitement. Elles ne vont pas partir du tout dans la nature. Elles vont partir sur des filtres, des espèces de filtres. Donc c'est de la paille et de la terre qui sera mélangée et qui va permettre au développement des bactéries qui vont manger en fait les pesticides restants, plus un petit peu d'évaporation de l'eau, et du coup le temps à faire son œuvre.
Et ça fonctionne vraiment ?
Et ça fonctionne vraiment. Il y en a quand même beaucoup qui ont été mises maintenant en place dans l'Hérault depuis 2-3 ans et donc qui sont très efficaces et du coup qui sont de plus en plus demandées. Au début, les agriculteurs se disent « Oh, ça ne va pas marcher, je vais attendre, je ne vais pas m'en servir. » Et puis, quand elles sont mises en place, on s'aperçoit petit à petit que la demande est plus importante, de plus en plus importante.
L'habitude se prend d'aller laver son engin là-bas. Mmh. Et du coup, on a identifié des bactéries qui sont capables de manger et de transformer les pesticides. Ouais. C'est fantastique ça.
Donc du coup, il faut mettre la paille pour qu'elle puisse avoir un peu d'air, donc pour pas que la terre soit trop tassée.
Compactée, oui.
Voilà. Donc c'est un peu le même système que dans les stations d'épuration. Il y a des bactéries qui mangent la matière organique pour précipiter les...
Sauf que là, c'est pas de la matière organique.
Là, c'est pas la matière organique, c'est des pesticides.
Ouais, ouais, d'accord. Voilà. Ok. Bon, ben, ça c'est très intéressant. Et donc, il y a déjà eu la création donc ces deux aires.
Elle est en cours.
Elle est en
cours. On est en train de travailler. On va demander une subvention pour mettre en place ça. Et donc, ce qui est important de noter, c'est que c'est vraiment un projet coopératif, on va dire, avec les trois communes qui vont mettre la main à la poche, mais surtout aussi les trois caves. Donc, c'est un partenariat à six qui est très efficace. Et donc, on a fait toutes les études ensemble depuis déjà... bien 2-3 ans, on travaille la main dans la main à 6 pour réfléchir au mieux à ce qui va être mis en place. Quoi.
C'est vraiment un beau travail de partenariat, effectivement, comme tu dis, au niveau des agriculteurs, des particuliers, des communes, et puis plus large, puisque donc, tu participes aussi à mettre en place les mesures agro-environnementales et climatiques, ça s'appelle le MAEC, qui est un programme européen qui finance les efforts vers la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc là aussi, c'est carrément des financements européens qui viennent encourager...
Donc les viticulteurs à réduire, les viticulteurs ou les céréaliers, puisqu'on a quelques céréaliers, à réduire donc les pesticides. Donc là aussi, c'est un travail partenarial où on a réfléchi aux mesures qui étaient les plus intéressantes pour eux, pour que pas non plus qu'on leur demande... que ce soit applicable en tout cas et que ça soit une vraie réduction, une vraie progression et pour arriver presque il y a des mesures qui permettent d'être en bio donc on a des escaliers qui permettent d'arriver jusqu'au bout. Donc tous les efforts qui sont à réaliser par un agriculteur pour qu'il mette moins de pesticides, ça lui demande du temps, ça lui demande de l'équipement, ça lui demande donc à être financé et donc il y a une petite participation, ça couvre pas tous les frais mais ça l'aide quand même pas mal à pouvoir soit compenser la perte de rendement, soit l'aider à s'équiper et à faire ce qu'il faut pour réduire.
C'est un très beau travail de relais et de pont que tu effectues là au sein de ton travail, Marie-Dominique Gras, de faire ce lien entre les gens du terrain et leurs vraies problématiques au quotidien, et puis des belles idées et des programmes de financement et tout ça qui sont lancés, mais assez loin souvent des problématiques locales. Comment faire ce pont, comment adapter, comment ouais. c'est vraiment très
là, intéressant. C'est vrai que c'est un partenariat, j'en ai pas parlé depuis le début, mais c'est très important. On a un groupe, un comité de pilotage autour de l'action qui est très très actif, notamment dans le Gard, donc qui regroupe par exemple la direction départementale des territoires de la mer, donc ils savent ce qui se passe tout le temps au quotidien pratiquement sur le territoire.
L'agence territoire
de la mer. Donc la DDTM
D'accord.
du Gard, l'agence régionale de santé aussi, qui est tout à fait au courant. On a le SMAJ des Gardons,
oui.
Qui travaille avec nous, la chambre d'agriculture qui travaille au quotidien avec nous. Mmh. Donc c'est vraiment l'agence de l'eau, bien sûr, puisque c'est quand même aussi grâce à eux qu'on est là, et qui finance et nos postes, mais aussi pas mal d'actions qu'on met en place. Là, le dossier de demande de subvention que je suis en train de préparer, c'est pour les aires de lavage, c'est auprès de l'Agence de l'eau et de l'Europe. Donc tous ces gens-là qui sont au quotidien avec nous, à nos côtés, nous aident aussi à faire le lien, parfois avec l'Europe, par exemple, ou avec des choses beaucoup plus locales ou un peu plus lointaines. Mmh. Donc ce sont des gens qui sont vraiment, qui ont, du fait qu'on est captage prioritaire, qui ont un regard... et qu'on se bouge, qui a un regard bienveillant sur nous. Quoi.
Mais tout est parti un peu de là, hein, de constater qu'effectivement l'eau est polluée, qu'on peut difficilement la dépolluer, et que du coup elle arrive au robinet des gens avec quand même des particules dangereuses et qu'on ne peut pas retirer. Mm. Là, il faut vraiment travailler en amont.
Et
effectivement,
c'est pour ça que c'est... la main dans la main, tout
voilà.
à fait.
Donc c'est pour ça que c'est l'agence de l'eau qui finance à 80% ton poste, notamment.
Tout à fait.
Et puis, donc en parlant d'eau, il y a aussi une autre action qui est très importante, c'est la mise aux normes des forages agricoles, puisque les forages agricoles sont vraiment le point d'accès à la nappe phréatique et qui peuvent être un endroit d'entrée des pesticides.
Oui, tout à fait. En fait, la nappe phréatique, c'est-à-dire la nappe d'eau qui est souterraine, chez nous, elle est à faible profondeur, donc on va creuser un petit trou, on va dire, et à vers 5 mètres à peu près, selon la période, pour trouver de l'eau, la pomper pour arroser son jardin. Alors à l'époque, il faut se souvenir que c'était beaucoup de vergers dans le secteur, donc du coup, il y avait beaucoup de gens qui avaient fait des forages, des petits forages, pour pomper et irriguer leur verger. Aujourd'hui, ces forages-là sont beaucoup moins utilisés, mais ils existent encore, et parfois, ils sont très vieux et pas bouchés, ou du moins pas équipés d'un bouchon qui permette d'éviter toute pollution vers la nappe, parce imagine,
qu'en cas de trou, pluie en cas de pluie
ça peut être lessivé, les pesticides qu'on a mis il y a quelques temps peuvent être lessivés et repartir directement sans être filtrés par la terre jusque là. On a un tube en fait qui est enfoncé dans le sol avec rien dessus, donc c'est assez facile à imaginer.
Et qui donne directement voilà. dans la nappe phréatique.
Voilà. Donc du coup il y a eu un gros travail de recensement qui a été réalisé avec un stagiaire de la faculté d'Avignon, où on a essayé de voir où c'est qu'étaient les forages, essayer de contacter les propriétaires pour leur expliquer où était l'enjeu. Et puis maintenant, on est en train de demander aussi de l'aide, encore des subventions, pour pouvoir les mettre aux normes et protéger pour que la pollution ne passe pas, en tout cas par là. Mmh. Voire même de les boucher si jamais ils s'avèrent plus utilisés.
Mmh. Ben c'est un gros travail de terrain effectivement qui est réalisé, et donc dans ce travail de terrain vous travaillez donc en partenariat avec l'association GRAP 3 dont Nadia est l'animatrice, la salariée voilà, et animatrice, et du coup de ce côté aussi, du côté de l'association GRAP 3, il y a beaucoup d'idées et d'innovations qui sont proposées et qui sont mises en place, c'est assez intéressant aussi, notamment l'agroforesterie. Alors c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, mais tout le monde ne sait pas forcément ce que ça recouvre comme réalité. Qu'est-ce que c'est, Nadia, l'agroforesterie ?
Alors l'agroforesterie, c'est concilier l'arbre et la culture. Mmh. Parce qu'il faut savoir que lors du remembrement agricole et de la mécanisation voilà, de l'agriculture, on a énormément arraché les arbres. Donc chez nous, en plaine, il y a très peu d'arbres, à part les platanes le long des routes. Quand vous regardez nos plaines viticoles, il n'y a plus un arbre. Uh-huh. Et donc l'agroforesterie, c'est replanter des arbres donc, dans nos champs.
Donc on remet ceux qu'on a déracinés il y a quelques décennies, quoi, malheureusement.
Mais...
Mm-hmm. Ouais, c'est ça, hein, faire et défaire. C'est comme ça qu'on apprend de nos erreurs. Et donc du coup, maintenant, l'idée, c'est de recréer donc, des haies buissonnières Comment alors? Entre les différentes parcelles, des différents propriétaires?
Alors, il y a plusieurs modalités. On est accompagné par un bureau d'études qui s'appelle Agrouf, qui est basé à Anduze, et qui, en fonction de la personne, du porteur de projet, va adapter donc un projet sur son exploitation. Alors, par exemple, Christian Vigne, le président de l'association, lui, il a souhaité reconstituer une haie le long de la rivière qui borde sa parcelle. Pour plusieurs raisons. Pour à la fois lutter donc, contre l'érosion, sachant que la berge, donc, chaque année, s'effondrait de plus en plus. Mm-hmm. Mais aussi pour recréer une coulée verte, en fait, pour la biodiversité. Donc, deux objectifs qui ont été remplis avec cette haie qui a été plantée donc, en 2015, l'hiver 2015. Et aujourd'hui, Christian souhaite aller plus loin, mettre des haies donc, en travers de ses parcelles pour recréer à nouveau des coulées vertes pour la biodiversité. Et c'est pour ça qu'il a participé donc, à un concours qui s'appelle Arbre d'avenir, pour lequel il est lauréat. Donc à ce propos, j'en profite pour faire passer un petit message. Allez sur le site internet arbredavenir.com et votez pour la ferme des Crouzettes. Ça lui permettra de gagner donc, et de récolter une enveloppe pour continuer son projet d'agroforesterie sur son exploitation.
Ah oui, donc c'est Arbre d'avenir.
Arbre d'avenir.
Arbre d'avenir.
Arbre au pluriel d'avenir.
Ok, très bien. Et donc la ferme des Crouzettes
tout
de Christian
Vigne.
Vigne, avec un nom Christian pareil. Il la soigne, sa vigne.
Tout à fait.
Et, alors la coulée verte pour la biodiversité, qu'est-ce que c'est exactement? C'est pour permettre en fait... parce que j'avais entendu parler de couloirs pour la biodiversité, pour permettre aux espèces, même animales, de pouvoir se déplacer.
Alors par exemple, la chauve-souris, qui est un excellent auxiliaire en agriculture, elle vient manger les vers de la grappe, par exemple,
d'accord,
en viticulture, elle a besoin d'avoir des repères pour se déplacer. Et ces repères, ce sont les arbres.
D'accord,
par
donc
exemple.
Effectivement, sans arbres, la chauve-souris, elle se cantonne à un petit coin et elle bouge pas beaucoup.
Voilà, elle va pas se déplacer, elle aura d'accord. du mal... à venir dans les vignes.
Donc en suivant les haies, etc., là, elle peut se déplacer et agrandir son territoire.
Et ce sont aussi des habitats pour certains insectes qui vont venir manger des ravageurs, pour des oiseaux, pour toutes sortes de biodiversité qui apportent beaucoup à la vigne.
Et à l'équilibre de l'environnement local. D'accord. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, cette pratique d'agroforesterie. Donc vous, à Grappe 3, donc vous aidez les viticulteurs à mettre en place des projets d'agroforesterie.
Oui, alors pas que les viticulteurs. On a un éleveur de poules qui fait des œufs bio sur Cardé, qui a aussi bénéficié d'un projet d'agroforesterie financé par Grappe 3. Et on a effectivement des viticulteurs. Donc là, en 2017, on aura 4 personnes qui vont planter.
Waouh, super. Et y a aussi un autre projet qui me plaît beaucoup, c'est la vigne belle. La vigne belle.
Voilà, tout à fait, avec
l'accent. Quel rapport entre le mouton et la vigne, Nadia?
Alors, au départ, c'est venu d'un constat de Christian Vigne, donc toujours le président de Grappe 3, qui trouvait que le passage en bio était insuffisant. Il trouvait qu'on n'allait pas assez loin dans les pratiques. Et ce qui l'embêtait le plus, c'était de faire des allers-retours en tracteur pour labourer le sol, pour lutter contre l'herbe. Parce qu'il faut savoir qu'en conventionnel, on va mettre un herbicide pour enlever l'herbe. Mais en bio, on va enlever l'herbe donc en passant, en labourant le sol.
Et ça, c'est très fastidieux. C'est le plus gros travail des viticulteurs bio, c'est de passer le tracteur
tout
le temps. Tout
à fait.
Ouais.
C'est très fastidieux et ça consomme énormément de gasoil. Donc, il ne voyait pas trop l'intérêt vis-à-vis de l'environnement. Mm-hmm. Donc, il s'est énormément renseigné et il a souhaité mettre des moutons dans ses vignes pour entretenir l'herbe en hiver. Et donc en été, il va mettre en place des couverts végétaux qui, eux, protégeront le sol et ne nécessiteront plus de labour.
D'accord, on ne peut pas mettre les moutons en été parce que sinon ils mangeraient les vignes,
ils
c'est ça?
Ils abîmeraient les vignes, tout
d'accord,
à fait, parce qu'ils aiment bien les feuilles de vigne.
D'accord, donc effectivement, alors on les met que l'hiver et l'été, par contre, là, on sème de l'engrais vert, c'est ça?
Alors,
non, c'est pas ça, j'ai pas bien
compris.
C'est
pas exactement ça, ce sont des couverts végétaux qu'on va semer un rang sur deux, donc on les sème en automne, généralement, ou au printemps. Et ces couverts permettent à la fois de protéger le sol, Oui. Parce que le labour a un impact très important sur la qualité du sol. Hein. On se rend de plus en plus compte que voilà, c'est pas bon pour les micro-organismes et que ça déstructure le sol.
On crée des sols morts qui ne peuvent plus effectivement assimiler toutes les choses qui pénètrent, puisqu'il n'y a plus de micro-organismes dedans à force de labourer. Ouais.
Voilà, et qui donc ont un impact sur la culture.
Tout à fait.
Donc il y a cet aspect-là de protection. Bon, il y a l'aspect engrais vert, bien sûr, parce que ces couverts végétaux, ils sont en général détruit et laissé sur place. Donc c'est un apport pour la vigne qui est intéressant.
Quand ça se décompose, ça crée du compost finalement pour la vigne. Ouais.
Et puis il y a tout l'aspect biodiversité, donc ça crée un habitat pour la biodiversité, notamment les pollinisateurs qui ont besoin de fleurs pour continuer à vivre.
D'accord. Donc ces couverts végétaux, vous essayez donc de sensibiliser les viticulteurs à les installer, puisque c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau. On voit beaucoup de vignes qui sont totalement à nu, hein, le sol est totalement à nu. Moi d'ailleurs, quand je vois ça, ça me fait un peu mal quand je passe autour de vignes là où le sol est complètement vierge, il n'y a pas une herbe qui pousse, ça fait assez mal. Là, l'idée, c'est de faire un rang sur deux en couverts végétaux, peut-être pour faire une transition douce ou...
Alors ça dépend, chacun a ses objectifs différents, c'est surtout pour limiter le risque. Ce qu'il faudrait préciser,
limiter le
avant
risque,
toute chose, parce que, voilà, ce que je voulais préciser, c'est que la vigne, il ne faut pas qu'elle ait de concurrence au moment où elle a besoin d'eau. Donc si au début de l'été, elle va avoir besoin de toutes ses ressources hydriques pour bien se développer. Et le problème de l'eau, c'est qu'elle pompe énormément d'herbe. Donc les essais qu'on est...
Plutôt l'herbe pompe énormément d'eau.
Oui, excusez-moi. Donc le problème, c'est que effectivement l'herbe pompe énormément d'eau au détriment de la vigne le plus souvent. Donc le but, c'est de semer des espèces qui pompent de l'eau à un autre moment.
D'accord.
Et qui vont sécher en été, quand la vigne a besoin d'eau.
D'accord.
Donc c'est pour ça qu'on fait des essais, notamment avec le sainfoin, des mélanges de trèfle.
On est en train d'essayer... panoplie de plantes pour trouver celles qui s'adaptent le mieux à la vigne.
Tout à fait. Qui apportent à la fois des éléments intéressants pour la culture.
Mais c'est un art subtil, parce que si on ne met pas d'herbe, en fait, l'eau va mal s'infiltrer dans le sol, et donc il y aura moins de réserves d'eau. Et par contre, si on met trop d'herbe ou de la mauvaise herbe, elle va aussi pomper trop. Donc c'est vraiment un art subtil entre mettre de l'herbe quand il faut et ce qu'il faut et l'enlever, ou du moins mettre à la bonne herbe pour pas qu'elle entre en concurrence.
Pardon. C'est pour ça qu'on sème un rang sur deux. C'est vraiment pour limiter le risque, faire des essais, et puis peut-être que certains agriculteurs iront plus loin en semant l'intégralité.
Je suis la plantée au milieu du désert, les pieds comme attachés, les bras qui fendent l'air. Dois-je avouer ce que je cache? Je suis l'arbre planté au milieu du désert, le regard embué et la rage sanguinaire. Après moi, il n'y a que du sable. Et ce long silence, long silence, après toi. Écoute mon serment, écoute ma prière, je suis si creux dedans et j'ai tant de colère. Je ne sais plus d'où je viens. Je cherche mon cœur, je cherche ma faiblesse, mon écorce est un leurre, j'ai la gorge si sèche, je suis comme nu sous la mitraille. C'est un long silence, long silence.
quel est ce combat? Où commence la guerre? D'où me vient l'intuition que la lutte ne sert qu'à livrer une autre bataille? Je suis là planté au milieu du désert, les pieds comme attachés, les bras qui fendent l'air. Dois-je avouer ce que je cache? Je suis un long silence, long silence, malgré moi. Comme un long silence, long silence, long silence, après toi.
C'était Debout sur le Zinc avec le titre L'Arbre sur Radio 16 dans Les Enfants du Nouveau Monde, où aujourd'hui on s'intéresse à comment aider le monde agricole et viticole et plus largement le grand public à aller vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement afin de préserver notamment la qualité de l'eau, puisque l'on sait aujourd'hui que ce sont tous les pesticides déversés, notamment dans les vignes, ce sont ces pesticides qui polluent les nappes phréatiques et qui entraînent des conséquences désastreuses sur la santé humaine. J'accueille donc aujourd'hui Marie-Dominique et Nadia qui s'impliquent dans la région d'Anduze pour accompagner des pratiques plus respectueuse. Il y a une vigne école qui a été montée aussi pour sensibiliser les plus jeunes, les scolaires à tout ce patrimoine viticole de notre région. Donc ça c'est sur Lézan, sur la commune de Lézan.
Oui, alors effectivement on a monté ce projet à deux avec Marie-Dominique Gras.
Oui.
Donc on a sélectionné l'école de primaire de Lézan. Parce que les instituteurs étaient partants pour ce projet et qu'on avait un viticulteur bio voisin très motivé aussi. Donc voilà, c'est tous les éléments étaient réunis pour monter ce projet, sachant qu'on est en plein cœur du périmètre de protection.
De protection des captages, oui.
D'accord. Donc là, l'idée, c'est vraiment sensibiliser les enfants au patrimoine viticole, les sensibiliser aussi au bio, à la viticulture bio, et de leur expliquer l'intérêt de protéger la ressource en eau. Tout à l'heure, on a parlé de la vigne BL et on n'a pas parlé de ce berger du coup qui est arrivé avec ses moutons, et ça me semblait assez intéressant puisque du coup il s'agit d'un troupeau itinérant qui n'a pas d'une bergerie ou des terres régulières, mais qui se déplace dans les différents espaces localement. Comment ça s'est passé l'installation de ce berger?
Alors, c'est nouveau. Il s'appelle Thomas. Le berger, il a été installé en septembre 2015 grâce à un financement participatif qui a permis de récolter une belle somme. Il a pu acheter un troupeau de 70 brebis.
Sur Internet, le financement participatif?
Oui, c'était sur KissKissBankBank. Voilà.
Ah,
c'était
là,
durant
beau, ça.
L'été 2015. Mm-hmm. Ça a super bien marché. Les gens locaux ont bien joué le jeu parce que les dons provenaient essentiellement des villages alentours.
D'accord.
Il y a eu une vraie...
Un enthousiasme
local autour de ce projet, les enfants, les parents, les personnes âgées qui étaient ravis de voir un troupeau arriver comme avant,
c'est ça, parce que j'imagine qu'avant c'était quelque chose qui devait se faire pas mal et puis ça a disparu, et pour les anciens ça doit être un vrai bonheur de voir à nouveau des moutons paître au sein des vignes, quoi.
Voilà, donc Thomas s'est installé en septembre et depuis il navigue entre les différents espaces sur le territoire, sachant qu'il ne peut rentrer dans les vignes qu'en hiver, pour ne pas risquer de l'abîmer, et qu'il va pâturer également sur les espaces de garrigue, dans les prairies, et qu'en été il monte en estive, donc là cette année c'était sur le mont Lozère, mais je crois qu'il va changer l'année prochaine.
Et là, vous avez donc, fort de cette expérience, en voyant que ça fonctionne très bien et que tout le monde est ravi, vous êtes en train de faire venir, ou vous l'avez déjà fait, faire venir un deuxième berger pour créer un deuxième troupeau itinérant comme ça sur le territoire.
Mais c'est vrai que depuis que Thomas est arrivé, donc tout le monde, les viticulteurs compris, on dit ah, vraiment c'est une bonne idée, ça fait plaisir de revoir tous ces moutons et il y a peut-être quelque chose à faire tous ensemble. Et Thomas donc a un troupeau qui est pas très grand et de toute façon il y a quand même une surface qui est assez importante, donc il peut pas couvrir toute la surface. Et donc avec toute cette communication qu'avait réalisé Grappe 3 autour de la vigne belle, d'autres éleveurs nous ont demandé s'il y avait de la place aussi pour eux. Et donc on a été contactés il y a pas un an, là, il y a au début d'année 2016, par une personne qui avait un troupeau, mais qui cherchait des terres, et qui avait déjà pâturé dans des vignes, donc il voulait savoir si on pouvait lui proposer des surfaces. Et donc effectivement, en ce moment, donc, on est en train de mettre en place un partenariat, on va dire, entre les agriculteurs et cet éleveur, pour qu'il puisse venir pâturer de la même façon que Thomas, dans les vignes, plutôt du côté de Cardet cette fois-ci, comme ça ils vont se partager le territoire et travailler tous en bonne entente.
Mais ça va faire plaisir d'entendre la vigne qui belle un peu plus par chez vous. Ça serait sympa que ça se développe, ce genre de pratique. Il faut savoir que du coup, c'est une super alternative aux herbicides pour les viticulteurs qui sont en traditionnel, on va dire. Et puis, c'est une énorme réduction de travail pour ceux qui sont en bio, puisque s'ils n'ont pas les moutons, il faut qu'ils passent régulièrement pour désherber. Et c'est un travail énorme, et comme on l'a vu, qui consomme beaucoup de gasoil, donc pas forcément très cohérent au niveau de l'impact sur l'environnement.
Ce qu'il y a aussi, c'est que ça apporte de l'engrais, les moutons, parce que quand ils mangent dans les vignes, bien sûr, ils laissent des pécoules et
voilà. Laissent les pécoules, et les pécoules, c'est très bon
et
pour la vigne.
C'est bon pour la vigne.
Et pour le sol et pour tous les micro-organismes dont on parlait tout à l'heure, ça crée un sol riche. Ben oui, bien sûr, évidemment. C'est vrai que ça, les anciens agriculteurs le savaient, qu'on ne fait pas de culture sans animaux, puisque ça va ensemble.
Hein, c'est l'animal. Les pratiques ancestrales. Hein. Ça a toujours existé, les moutons dans la vigne, et ça a disparu là pendant quelques années, mais ça revient
de plus en plus.
Ouais,
ouais, ouais. Ouais. Bah, en se rendant compte des dégâts que fait le chimique, effectivement, on revient au bon sens.
Après, ce sont toujours tout un tas de bonnes pratiques à retrouver, et puis de bonnes ententes aussi, parce que ben, les moutons, malgré tout, ils peuvent, s'ils ne rentrent pas au bon moment, tasser le sol. Donc il y a vraiment, encore une fois, un partenariat à mettre en place entre l'éleveur et le viticulteur. Et bon, à l'époque, c'est vrai que c'était la même personne, donc c'était facile. Ils pouvaient savoir quand le sol pouvait supporter la présence des moutons, et pas trop longtemps aussi. Donc là, vraiment, c'est des réflexes à reprendre et à retravailler tous ensemble. Quoi.
Et vous aussi, vous faites ce travail-là, justement. De
les mettre en lien,
de les mettre
tout
en lien.
À fait, c'est ça, de les mettre en lien et de les faire s'écouter les uns les autres.
Et
mais ce qui marche très bien, c'est qu'en fait ils s'entendent bien, le partenariat fonctionne, donc les viticulteurs et le berger jouent le jeu, et ce qui fait que la pratique se développe de plus en plus chez nous.
C'est passionnant. Est-ce que vous pouvez aussi dans votre travail accueillir des personnes qui s'intéressent à toutes ces pratiques et qui voudraient les mettre en place ailleurs? Est-ce que vous pouvez apporter ce rôle de conseil ou de...
Alors, on va dire qu'au départ, c'est pas l'objectif, parce qu'on est quand même financé sur les actions qui portent sur le territoire, donc concernées par les captages prioritaires. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en mettant en place des formations, on a eu des personnes d'ailleurs qui sont venues et qui étaient intéressées par ce qu'on fait, en fait.
Et vous leur avez permis de suivre les formations?
Bien sûr.
Ah,
bien
c'est sûr, fantastique. C'est... Donc il faut savoir, par exemple, que vous offrez des formations gratuites aux agriculteurs sur la mise en place de couverts végétaux.
Oui. Et sur les sols.
Et sur les sols. Donc ça, c'est vraiment intéressant de savoir que des agriculteurs qui se sentent un peu démunis, qui aimeraient se former à ces questions-là, mais qui ne savent pas quoi faire, les inviter à aller à votre rencontre. Et puis, soit ils pourront en bénéficier grâce à vous, soit vous les réorienterez peut-être vers des partenaires ou quoi.
Ou les échanges d'expérience avec des viticulteurs de chez nous, c'est tout à fait possible d'organiser des rencontres.
Comment on contacte l'association Grappe 3? Donc alors ça s'écrit Grappe et 3 en chiffres.
Oui, tout à fait. Le mieux, c'est de me faire un mail sur contact grappe3.com.
D'accord.
De notre côté, effectivement, au niveau commune et pratique vers le zéro phyto, c'est vrai qu'on n'a pas du tout vocation, enfin, on n'a pas du tout prétention à dire qu'on est exemplaire, même si on a atteint le niveau tercène aussi bien pour les ans que pour les dignans, et qu'on est niveau 3.
Quand même. Mais bon, on n'est pas exemplaire, mais quand même.
Non, mais par contre, on essaye d'échanger avec d'autres communes, parce qu'en fait, il n'y a pas l'idée, la bonne idée. Enfin, on n'est pas des donneurs de leçons du tout, mais c'est vraiment de pouvoir échanger, de pouvoir travailler ensemble, de se dire, tiens, là, le cimetière, encore, je reviens encore au cimetière, mais c'est vrai que c'est quand même une grosse préoccupation. Là, c'est le cimetière de Saint-Christol-les-Alès, qui est aussi comme une personne qui est juste à côté de nous, et magnifique. Il est travaillé comme ça, avec ce tel type d'herbe. Et bien voilà, on échange avec eux, on essaye de voir ce qu'ils font. Donc c'est important de se créer un groupe, un réseau.
Et de s'inspirer les uns des autres, des bonnes pratiques et des bonnes idées de chacun.
Tout ça. Donc c'est aussi l'idée de la charte régionale nos villes, nos villages vers le zéro phyto. Donc pouvoir non seulement labelliser des communes, mais aussi de les mettre en relation entre elles et de pouvoir échanger vers les bonnes pratiques.
Bien sûr, bien sûr. Pour terminer avec les actions mises en place par Grappe 3, donc vous aussi, vous organisez des événements publics pour la sensibilisation à l'environnement, la valorisation du bio, vous participez à la fête de l'eau, à la semaine du bio, etc. etc. Et vous avez un projet qui s'est créé récemment, qui est assez intéressant, Grappe Fleurie. Là, il s'agit du coup du lien avec les abeilles. Est-ce que Nadia, tu peux nous en parler ?
Oui, bien sûr. Alors, le projet de la Grappe Fleurie, il est né d'un partenariat avec une autre association locale qui s'appelle Abeilles et Sagesse, qui est basée à Lédignan et qui œuvre pour la protection de l'abeille. Et donc l'idée, c'était d'offrir en fait des mélanges de graines mellifères aux agriculteurs pour qu'ils ressèment des bandes de fleuries dans leurs champs, voire des jachères entières. Donc pour participer à la protection de l'abeille dont on sait que elle est en danger aujourd'hui et qu'elle a de moins en moins de ressources pour manger.
Déjà, diminution donc des fleurs, des champs, etc., puisque c'est beaucoup désherbé. Et puis aussi, l'abeille est très vulnérable aux pesticides. On a vu que ça lui perturbe son système de cartographie et qu'il y a des abeilles qui ne retrouvent pas leurs ruches parce que tout simplement, elles ont ingéré des pesticides et qui les perturbent tout leur système et elles ne peuvent plus s'orienter. Voilà.
Donc, je me permets de rajouter un petit mot sur l'association Abeilles et Sagesse. Donc ça fait partie des associations avec lesquelles nous travaillons, avec lesquelles nous travaillons au niveau local. Donc c'est vrai que c'est au même titre que Grappe 3, c'est une association importante parce qu'elle sensibilise aussi le grand public sur l'utilisation des pesticides aussi dans son jardin. Et elle aimerait bien que des ruches reviennent aussi dans les jardins des particuliers, comme c'était à l'époque, c'était assez pratique. Monnaie courante. Voilà.
Et donc l'association Abeilles et Sagesse essaye d'aider les particuliers
à... Oui, tout à fait. Elle propose des stages courts sur le modèle d'un week-end aux apiculteurs amateurs ou même professionnels s'ils le souhaitent, pour apprendre ce que c'est que l'apiculture et aller vers la mise en place de leurs ruches dans leur jardin. Une, deux, trois, 10 ruches, 20 ruches.
Super.
Il y a un peu de tout dans l'association.
C'est
un beau travail. Ils ont fait par exemple la fête de l'abeille à Lédignan, donc je pense qu'ils vont renouveler ça et qu'on continuera à les soutenir. C'était une belle journée et voilà.
Et oui, pensez-y, nos chers auditeurs et auditrices, si vous avez un beau jardin fleuri, pourquoi ne pas mettre une ruche dans ce jardin afin non seulement de polliniser vos fleurs, vos arbres, vos fruitiers, etc., mais surtout de vous offrir quelques pots de miel tous les ans. C'est quand même sympa, un joli pas vers l'autonomie. Faire son propre miel, surtout qu'il n'y a pas grand-chose à faire, hein. C'est les abeilles qui travaillent. Alors, est-ce qu'on a fait le tour de toutes vos actions, mesdames, ou est-ce qu'il y a encore des choses qu'on n'a pas abordées? Ça fait déjà un beau...
Moi, je pense que Nadia dira comment, on a plein de choses dans les cartons, beaucoup d'idées dans la tête.
J'aurais juste voulu préciser pour la Grappe Fleurie qu'on va mener une campagne de financement donc à la Biocoop d'Anduze du 15 novembre au 3 décembre. Vous pourrez vous procurer auprès de la caisse des coupons qu'on appelle dons militants, dont le montant sera intégralement reversé à Grappe 3 pour financer ce projet.
Voilà, donc ça c'est dans la nouvelle entre guillemets Biocoop d'Anduze, hein, qui a juste un an ou quelque chose comme ça. Et du coup à la caisse on vous propose ces petits coupons militants pour aider donc les agriculteurs à recevoir des sacs de graines mellifères et à mettre dans leurs champs afin d'avoir un paysage aussi beaucoup plus fleuri. Donc
et oui.
ça fait plaisir à tout le monde. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'être venu depuis, le sud andusien, là, les Dignans, les Ans et Cardet. Merci beaucoup d'avoir fait la route jusqu'à nous. Et puis j'espère bien que vos pratiques vont inspirer d'autres ailleurs sur le territoire. Parce que c'est vrai que moi, je trouve que c'est assez exemplaire quand même.
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le site internet de Grappe 3, donc www.grappe3.com.
Merci Nadia, merci Marie-Dominique.
Merci à vous.
À bientôt.
À bientôt.
My gang will get you. Retrouvez les enfants du Nouveau Monde sur Radio 16 le lundi de 18h30 à 19h30 et le jeudi de 8h à 9h. Toutes les émissions sont également accessibles sur le www.radio16.net.